Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il est à présent de tradition, ou presque de tradition, que la chaire de théologie œcuménique du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris, ouvre son programme annuel par une soirée débat. Donc c'est le cas ce soir. Alors bienvenue à chacune, à chacun d'entre vous. Nous vous remercions beaucoup de votre présence, que vous soyez des habitués, des étudiants, étudiantes ou d'autres. Et nous remercions particulièrement les institutions universitaires qui, fidèlement, année après année, nous font l'amitié d'être là et de partager avec nous ce souci des questions et des défis œcuméniques. Donc merci pour ce soutien. Et une fois n'est pas coutume, j'aimerais les accueillir de manière plus personnelle, après avoir aussi souhaité la bienvenue à ceux qui nous rejoignent en ligne. Alors nous tenons à remercier particulièrement ce soir l'Institut supérieur d'études œcuméniques de l'Institut catholique de Paris, l'Institut protestant de théologie de Paris, l'Institut de théologie orthodoxe, aussi Saint-Serge. Nous remercions aussi particulièrement la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, le Centre pour l'intelligence de la foi. Il y a aussi le Centre Istina. Le risque, bien sûr, c'est d'en oublier. Mais en tout cas, merci année après année de partager avec nous ces questions œcuméniques. Je remercie aussi particulièrement les membres du groupe des Dombes qui sont assez nombreux ce soir, je crois. Donc merci pour votre présence. Et puis je remercie les communautés qui portent également cette vocation œcuménique. Je pense là à la Maison de l'Unité. Je pense aussi aux diaconesses de Reuilly. Merci d'être là. À la communauté du Chemin Neuf. Merci à son responsable d'être présent ce soir. Et puis, bien sûr, je souhaite la bienvenue aussi au directeur du Service national pour l'unité des chrétiens de la Conférence des évêques de France et à d'autres délégués diocésains ou régionaux de l'œcuménisme. Merci pour votre soutien depuis ces 6 années, je crois, maintenant. Donc, bienvenue à chacune et à chacun. Et je laisse maintenant Michel Fédoux présenter vous représenter le thème de cette soirée.
Bonsoir à tous, à toutes. L'Église sainte, question pour nos églises. C'est donc le thème de notre rencontre ce soir. Dans le flyer, sur le flyer, nous avons mis cette expression « Église sainte » entre guillemets. Et on peut comprendre ces guillemets de deux manières. Ces guillemets rappelle d'abord tout simplement qu'il s'agit d'une citation. Dans le credo que nous partageons pour l'essentiel, le credo de Constantinople, dans ce credo, les communautés chrétiennes qualifient l'Église par ces 4 termes, ces 4 notes, comme on dit, une, sainte, catholique et apostolique. Sainte, c'est donc, d'après ce symbole de Constantinople, l'une des caractéristiques, l'une des notes de l'Église. Et cela s'enracine dans les Écritures mêmes, puisque le Nouveau Testament parle déjà de l'Église sainte. Mais les guillemets s'expliquent surtout par une considération qui tient à la fois à l'histoire et à l'actualité. À l'histoire, car comment peut-on en toute rigueur confesser la sainteté de l'Église alors que l'histoire chrétienne, même si elle a connu de grandes figures de sainteté, a été à chaque époque marqué par des formes et des formes parfois graves d'infidélité à l'Évangile. Et d'autre part, à l'actualité, car nous savons bien, les révélations des abus, des transgressions commises au sein de l'Église conduisent à s'interroger à nouveau frais sur cette qualification de l'Église comme sainte. Que disent donc les communautés chrétiennes quand elles confessent l'Église sainte? Et que veut dire cette sainteté aujourd'hui? Il nous a paru précieux d'entendre sur ces questions 3 voix de théologiens, théologiennes, représentant diverses églises. Le père Christophe Dalloisio, du côté de l'église orthodoxe, madame la pasteur Elisabeth Parmentier, du côté du protestantisme, et le père Joseph Fameret, du côté de l'église catholique. D'avance, avec Anne-Cathy, je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Nous vous présenterons au fur et à mesure des diverses interventions. Donc chacun va prendre la parole pendant 25 minutes environ. Et après, il y aura un échange, peut-être éventuellement un petit échange entre vous, et en tout cas, possibilité d'échanger avec ceux d'entre vous qui auront des questions ou des réactions. Il me revient de présenter tout d'abord le père Christophe Deloisiau. Vous êtes marié, père de deux enfants. Vous êtes recteur d'une paroisse orthodoxe francophone à Bruxelles. Vous êtes agrégé de physique, docteur en théologie. Vous avez publié en particulier un ouvrage important, Institutions ecclésiales et ministères chez Nicolas Afanassiev. Et vous avez collaboré à la revue Études. Tout récemment aussi, vous avez collaboré à la revue Recherche de sens religieuse, puisque au début de cette année 2023, vous avez publié un article sur le thème « Le salut de l'Évangile et les saluts de l'Église ». Vous êtes membre de l'ACAT, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture. Vous êtes membre de l'ACAT Belgique, qui mène ses actions de promotion des droits humains en Belgique et dans d'autres pays. Mais vous êtes aussi je crois, depuis 2020, juin 2020, membre du bureau international de la Fédération internationale des ACAT, la FIACAT, pour un mandat de 4 années. J'ajoute que vous enseignez à l'Université catholique de Louvain, où vous êtes chercheur affilié à l'Institut de recherche religion, spiritualité, culture, société, et vous êtes aussi producteur animateur sur RCF. D'avance, je vous remercie de nous aider à réfléchir sur ce thème de l'Église sainte.
C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Je suis vraiment très honoré d'être invité à m'adresser à vous. Je dois néanmoins vous confesser que je me sens un petit peu présomptueux de parler avant deux éminents théologiens tels qu'Elisabeth Parmentier et le père Joseph Fabré. Mais pour ajouter à la difficulté de l'exercice auquel je me prête, vous devez savoir que le père Joseph Fabré a été, à l'Université catholique de Louvain, le promoteur de mon mémoire de DEA et mon directeur de thèse. Donc je lui dois énormément. Donc je vous demande de considérer que si vous entendez quelque chose d'édifiant dans ma bouche, c'est de considérer que c'est à lui que vous le devez. Mais si je dis des bêtises, j'ai confiance qu'il corrigera les erreurs que je pourrais faire. Alors, mon plan partira d'une question. Y a-t-il une compréhension proprement orthodoxe de la sainteté de l'Église? Et la réponse pourrait être très simplement non. Y a-t-il une doctrine confessionnelle distincte au sujet de la sainteté comme notion théologique fondamentale? Non, je ne le crois pas. Pourtant, nos églises respectives présentent de considérables différences dans leurs approches pratiques de la sainteté. Par conséquent, comme toujours en théologie, je crois, il convient de distinguer la théorie et la pratique. La théorie, pour l'orthodoxie, ne choquera vraisemblablement ni l'auditeur protestant, ni l'auditeur catholique. On peut même aller jusqu'à supposer que la théologie orthodoxe sur l'Église et sur la sainteté apparaîtra critique à l'égard d'un certain nombre de pratiques au sein même des communautés orthodoxes. Donc je n'entends pas l'exercice de ce soir comme une sorte de présentation compétitive sur la sainteté dans telle ou telle Église ou dans la vision de telle ou telle Église, mais plutôt comme une scrutation de ce qu'on entend par sainteté de l'Église depuis le point de vue qui est le nôtre. Et en ce qui me concerne, depuis l'orthodoxie, avec les yeux et le cœur ouverts vers toutes les expressions du christianisme. Et je dis ça parce qu'en fait, la méthodologie dans la théologie œcuménique est assez fondamentale. La méthodologie, c'est déjà de la substance. Ce n'est pas de la procédure sans substance. Et donc mon propos ici ne sera pas une évaluation selon la méthodologie de la théologie pratique, de la pratique orthodoxe en rapport avec la sainteté, mais la réflexion d'un théologien sur cette question. Et dans le contexte de l'orthodoxie, on ne peut pas avoir plus que la réflexion d'un théologien, ou bien d'un groupe de pasteurs, ou bien d'un synode, etc. Parce qu'il n'y a pas, comme vous le savez, d'organe qui soit l'équivalent du magistère romain, par exemple, dans le catholicisme. Et en ce qui me concerne, je jette un regard de théologien plutôt porté sur les questions ecclésiologiques et sur les rapports entre Église et société. Et j'espère que cette réflexion mènera au dialogue fécond entre nous que le père Michel Fédoux et Madame Grabert ont appelé de leur vœu. L'un des bénéfices majeurs d'ailleurs de tout dialogue œcuménique me semble être dans le fait qu'il demande à chaque fois un exercice réflexif à chacun sur l'énonciation de sa théologie et la confrontation de cet énoncé avec une critique bienveillante, mais non moins exigeante, de la part de frères et sœurs en Christ. Nous allons donc suivre l'évolution de la signification de la sainteté dans l'évolution de la théologie orthodoxe, parce qu'en fait, ce terme a évolué, à la fois le terme saint et le terme église d'ailleurs. On ne peut pas ignorer que ce mot est lourd de sens. Cependant, si la conscience ecclésiale quasiment indivise, qui a canonisé le credo de Nicée-Constantinople entre 325 et 381, si la conscience ecclésiale quasiment indivise a osé employer ce qualificatif pour désigner l'Église, c'est qu'il y a un mystère à sonder et à scruter derrière cela. Je crois en l'Église une sainte catholique et apostolique. C'est en effet une phrase dans laquelle se retrouve, même s'ils ne la professent pas de manière quotidienne tous de la même manière, mais c'est une phrase dans laquelle se retrouve la majorité des expressions du christianisme. Alors il faut retourner pour cela à la signification de l'adjectif et ensuite du substantif saint dans l'écriture. Et je commencerai par l'Ancien Testament parce qu'on va voir un renversement de cette signification entre l'Ancien et le Nouveau. Dans l'Ancien Testament, et je préfère partir d'ailleurs de la réflexion sur l'adjectif saint plutôt que sur le substantif assez abstrait de sainteté, même s'il est tout à fait biblique aussi, mais à mon sens, il vaut mieux revenir à l'adjectif en l'occurrence. Saint est un adjectif qui se rapporte à Dieu et à Dieu seul. Et il signifie celui qui est tout autre. Sa sainteté, le fait qu'il soit saint, est le resplendissement de sa gloire. Et saint, c'est uniquement Dieu. Mais par élection de Dieu, Israël devient un peuple et devient un peuple tout autre. Le peuple élu, le peuple mis à part, le peuple à qui Dieu choisit de révéler le resplendissement de sa gloire. Donc le peuple saint. Et on va voir dans l'Ancien Testament l'emploi de l'adjectif saint à l'égard du peuple d'Israël. Dans le Nouveau Testament, on va voir une évolution de ce terme. C'est Jésus-Christ qui est le saint par excellence. On a par exemple cette expression dans la bouche de l'apôtre Pierre dans son discours immédiatement après la Pentecôte, dans le chapitre 3 des Actes. Il désigne Jésus comme le saint et le juste. Il est, Jésus-Christ, le saint par excellence. C'est une manière aussi évidemment de proclamer sa divinité. En tant que corps du Christ, corps du seul saint, l'Église est donc conçue comme sainte. L'assemblée des fidèles est qualifiée de sainte. Je me permets de citer une théologienne orthodoxe très ouverte aussi au dialogue avec tous les chrétiens, Elisabeth Bersigel, qui a vécu jusqu'en 2005 et qui a vécu quasiment un siècle, qui a traversé tout le XXe siècle. Dans un ouvrage de 1950, « Prière et sainteté dans l'Église russe », elle commence son introduction, je vous lis juste les deux, trois premières lignes, je la cite, « L'Église chrétienne n'est ni une école philosophique, ni une association culturelle. Elle est le corps du Christ, c'est-à-dire l'unité organique de ceux en qui le Seigneur vit par l'Esprit-Saint. Elle n'est pas une réalité statique, mais à travers le temps, elle marche vers son achèvement éternel, la fin infinie que Dieu lui a assignée, la Jérusalem nouvelle, l'humanité avec un grand H, et en elle, toute la création déifiée par la grâce. Dès maintenant, elle est pour ceux qui vivent en elle, image et participation de l'éternel mystère d'amour de la Sainte Trinité. » Fin de citation. Donc, pour cette théologienne représentative de la théologie orthodoxe, à mon sens, l'Église est avant tout l'Ecclésia, l'Assemblée, non un quelconque appareil institutionnel qui, d'ailleurs, au commencement historique de l'Église, n'était pas aussi formalisé que nous le connaissons aujourd'hui. L'Église est aussi décrite dans tout le Nouveau Testament, non, en plus d'être décrite comme corps du Christ et donc participante de la sainteté du seul Saint Jésus-Christ, comme épouse du Christ. On a par exemple dans l'Épître aux Éphésiens ce passage assez connu au chapitre 5 où l'Église est qualifiée d'épouse du Christ et elle est présentée à Jésus comme sainte et immaculée. L'Église est également présentée, selon un autre aspect de la sainteté, comme habitacle de l'Esprit Saint. Habitacle de l'Esprit Saint constitué, édifié par les pierres vivantes que sont les fidèles. Il y a beaucoup de passages et de références pour cela, bien sûr. On peut aussi rattacher la qualification de sainteté de l'Église dans le Nouveau Testament au fait qu'elle est l'assemblée des enfants du Père, de ceux qui reçoivent l'adoption filiale. Bref, l'Église est sainte par participation à la sainteté divine et non par la qualité intrinsèque des individus humains qui la composent. Et cet élément est évidemment capital. Parallèlement à cette qualification de l'assemblée, de l'Église assemblée, le Nouveau Testament présente de nombreuses occurrences où l'on voit que les fidèles qui ont été baptisés en Christ sont qualifiés de saints. Et ça, c'est aussi un renversement dans la signification du terme. Donc, les fidèles baptisés dans la mort et la résurrection du Christ sont qualifiés de saints. Et le terme est à la fois adjectif et substantif. Mais si chaque baptisé est qualifié de saint et appelé à la perfection, il n'en est pas pour autant irréprochable moralement. Et c'est ce qui explique que dès les origines de l'Église, on est reconnu comme saint des imparfaits, des personnes qui n'étaient pas du tout irréprochables sur le plan de leur comportement. Là, je vais vous citer un autre auteur orthodoxe assez représentatif aussi de la théologie, Boris Bobrinskoy, qui a été professeur à l'Institut Saint-Serge à Paris, juste à côté d'ici, et qui écrit, je le cite, « Ce problème de l'appel à la sainteté, du devenir, pose le grand problème dans lequel l'Église se débat depuis 2 millénaires. Y a-t-il place dans l'Église pour le non-saint, pour le péché ? Dans l'Église, dans l'épouse immaculée du Christ, si les membres de l'Église sont pécheurs, l'Église n'est-elle pas elle-même contaminée ? Ou bien le péché n'entraînerait-il pas une exclusion irréversible du pécheur hors de l'Église ? Nous avons eu dans les premiers siècles chrétiens la grande tentation du montanisme, qui était une tentation de rigorisme, une tentation justement de plus grande pureté, une tentation d'exclure de l'Église les pécheurs, une tentation de refuser le pardon aux pécheurs parce que l'Église est sainte, parce que Dieu est saint, parce qu'au baptême nous avons été sanctifiés. Et pourtant, écrit le père Schmemann, dit toujours le père Boris Bobrinskoy, la victoire de l'Église sur le montanisme est l'une de ses plus grandes victoires historiques, car l'Église se trouvait devant la question fatale, ou bien rester un groupe de parfaits, en retranchant de sa communion tous ceux qui étaient incapables de supporter cette perfection, ou bien, sans rien changer pourtant à son idéal suprême, absorber la, entre guillemets, masse, entrer dans la voie de sa lente éducation, ou bien rester dans la sainteté hors du monde, hors de l'histoire, ou bien accepter cette histoire comme son champ pour un long et lourd labeur. Il était difficile de lutter contre le montanisme. Il contenait tant de sainteté, tant de foi, tant de sacrifices, tant de zèle, tant du meilleur dont on s'inspirait et dont vivait l'Église. Mais l'ayant condamné, l'Église condamna une fois pour toutes tous les efforts et toutes les tentations de désincarner l'Église visible et historique. » Fin de citation. La sainteté n'est donc pas une sainteté propre des membres de l'Église, mais la sainteté qui est celle de Jésus, le Christ, c'est-à-dire la sainteté de celui qui nous invite à devenir, comme lui est le Fils du Père, des enfants adoptifs du Père. Empiriquement, on doit se poser la question de comment se manifeste la sainteté. Est-ce que la communauté conserve l'attribut de sainteté de ses membres individuels ? Si les membres de l'Église, on l'a vu, dans le Nouveau Testament, peuvent être reconnus comme saints par leur participation à la mort et à la résurrection du Christ, est-ce que l'attribut de sainteté peut se reporter au groupe ? Et là, empiriquement, l'Église dans le Nouveau Testament et dans tous les premiers temps, et là peut-être qu'on aura l'occasion de débattre écuméniquement, l'Église est surtout l'Église locale. Le centre de gravité ecclésiale est dans l'Église locale, dans la réalisation la plus palpable de l'être ecclésial. Les éléments de sainteté sont donc fonction de la vie de chaque membre dans la communion du Saint-Esprit. L'Église est non parfaite, forcément, dans sa réalité locale et palpable. Et avec, je pense, la majorité des ecclésiologues orthodoxes, je prétendrai qu'il n'existe pas d'Église universelle. L'Église universelle est une construction abstraite qui n'a jamais été réalisée sur la Terre. Le concept abstrait d'Église universelle, dans l'histoire, ne revêt pas de caractère pratique, sauf pour l'organisation juridique de l'union des Églises locales. Cependant, nourrir l'illusion qu'il existe une Église universelle, abstraite, peut mener à croire qu'il existe une sainteté parfaite, abstraite, elle aussi, qui serait l'attribut naturel de cette Église universelle sur la terre. L'Église, quand on la désigne au singulier comme épouse du Christ et corps du Christ, est une réalité qui transcende l'espace et le temps. Mais dans la médiation de l'histoire, toute expérience ecclésiale cesse d'être parfaite. Et je vais vous donner une preuve, et je vous prie de ne pas la considérer comme une expression de sentimentalisme de ma part. Je suis membre de l'Église, et donc je sais. Je viens de démontrer qu'elle est imparfaite, parce que je me sais imparfait et pécheur. Mais je prétends être membre de l'Église. Et ma simple présence dans l'Église, depuis un petit demi-siècle, est une preuve flagrante du fait qu'elle peut exister et être imparfaite. Quand on est un observateur, et je suis un observateur, on apprend depuis le XXe siècle qu'un observateur peut interagir avec l'objet qu'il observe. J'observe l'Église, mais en même temps j'en suis membre. Et donc comme je me sais imparfait, je sais que l'Église peut exister sans être parfaite. CQFD. Donc le saint n'est pas dans la compréhension théologique celui qui est irréprochable, mais celui qui se sait appelé à la communion de l'Esprit-Saint. On peut examiner pour cela également les processus de canonisation dans les différentes églises. Et les processus de canonisation sont assez éclairants, et dans l'orthodoxie, je dois reconnaître qu'ils sont relativement identiques à ce qu'ils étaient dans l'Antiquité. Il n'y a pas grand-chose qui a changé dans la manière de reconnaître la sainteté de certains individus. Donc le processus lui-même est assez simple. On reconnaît la sainteté des personnes quand elles sont vénérées par une communauté locale. Alors après, éventuellement, il y a une procédure qui est suivie pour que cette proclamation de sainteté soit la plus large possible, mais tout part quand même toujours d'une vénération locale dans un processus assez populaire. Le processus de canonisation faisant intervenir la population locale au travers de ses expressions de piété, eh bien, cette canonisation s'avère être une opportunité pour canoniser une vision de l'Église ou du monde. Et elle a pu être utilisée, et ça c'est un gros défaut évidemment de tout le rapport de l'Église orthodoxe à la sainteté, les processus de canonisation ont pu être utilisés pour canoniser non seulement une expérience de l'Esprit-Saint, mais aussi une certaine vision du monde, une certaine vision de l'Église, voire un régime politique, ou l'attachement à une patrie. C'est comme ça qu'on voit dans l'histoire de chaque région évangélisée, du moins dans l'orthodoxie, des canonisations très liées à la culture locale. Et parfois, quand on n'a pas de saints locaux à se mettre sous la dent, au début de l'histoire d'une église régionale, on canonise même des objets, donc des icônes miraculeuses. On en a énormément dans certaines régions. On a vu dans l'expansion du christianisme en Russie, par exemple, un foisonnement de vénération d'icônes miraculeuses. Alors, ça pose problème, évidemment, parce que ces processus de canonisation qui sont évidemment très humains sont parfois à la merci d'une certaine instrumentalisation. Et ça, c'est une des évolutions de la signification de la sainteté. Donc, je suis parti de l'Ancien Testament, je suis passé aussi par le Nouveau, qui a vu un renversement dans la signification du mot saint. Après, dans l'histoire de l'Église, donc, les reconnaissances de sainteté ou de canonisation ne sont pas toujours si proches de la théologie du Nouveau Testament. On pourrait dire que l'évolution du sens du mot saint et de son rapport à l'Église a également évolué au travers de l'hypersacralisation de certaines institutions cléricales et de certains processus au sein de l'Église. Notamment, je pense ici aux titulatures ecclésiastiques qui, quand on les examine avec un peu de sérieux, nous apparaissent comme vraiment des broutilles, mais qui, dans la vraie vie pratique des gens, occupent une place assez importante. Ne vous avisez pas de traiter le patriarche œcuménique de sainteté. C'est sa toute sainteté. Vous serez traité vraiment comme un profanateur si vous osez lui enlever son préfixe adverbial. C'est bien sa toute sainteté, et même plus précisément sa très divine toute sainteté. Et il n'est pas du tout le seul, simplement lui il est au sommet de l'échelle, et donc il a peut-être une divinité en plus que les autres. Mais l'ensemble des dignitaires ecclésiastiques se retrouvent affublés de titres qui se rapportent à la notion de sainteté et qui, bien entendu, désignent leur fonction et le respect au service à l'Église, au saint corps de l'Église qu'apporte leur fonction, mais ce ne sont pas des qualifications de leur qualité subjective. Ça n'interdit pas qu'on ait des patriarches, des évêques, des diacres, tout ce qu'on veut, qui puissent être sanctifiés. Mais bon, la plus vénérée de toutes les personnes saintes dans l'orthodoxie reste la Mère de Dieu, et elle n'était ni patriarche, ni rien de tout cela, que je sache. Donc, dans la pratique orientale, on a quand même ce gros problème de l'hyperbole dans les styles de langage qui se traduisent dans la théologie pratique. Et aujourd'hui, on peut même dire qu'il y a énormément d'utilisation de ce mot saint qui ont véritablement, entre guillemets, profané. Je n'aime pas beaucoup ce mot de profané parce qu'il présuppose qu'il y a des choses sacrées. Alors, voilà, cette sainteté de l'Église a été quelque peu dévoyée par un rapport beaucoup trop léger à son utilisation. Si on devait synthétiser de manière plus positive théologiquement la sainteté de l'Église, je dirais qu'elle est la sainteté de l'Église, à proprement parler, c'est l'Esprit Saint lui-même. Il est personnellement la sainteté de l'Église. L'hypostase divine de l'Esprit ne s'incarne pas. Il prend visage, si je puis me permettre d'emprunter cette expression, et je l'emprunte à Serge Bulgakov, un grand théologien qui disait cela au sujet de la Mère de Dieu. Donc l'Esprit Saint prend visage dans tout sujet animé de foi et qui discerne en Jésus-Christ le Fils du Dieu vivant. L'exemple premier que l'orthodoxie considère comme manifestation de la sainteté est justement la personne de Marie, la Mère de Dieu. Je parle ici en termes de théologie symbolique. Je n'ai pas vraiment de compétence en archéologie des sources historiques de la vie de Marie. Ce qui compte pour moi, c'est que le personnage évangélique de Marie est celui qui a été la bonne terre de la parabole du semeur, celle qui a reçu dans son cœur la parole de Dieu, qu'il a écoutée, dans tous les sens du terme écoutée, et qu'il a fait grandir. Au pied de la croix, cette figure simplifiée de l'Église est restée dans l'espérance. À la résurrection de son fils, Marie a contemplé sa gloire et a continué à marcher elle-même vers la sainteté entière, la sainteté plénière. Et pour reprendre cette expression de l'Apocalypse, que le saint se sanctifie encore, eh bien cette phrase s'applique tout particulièrement à ce personnage évangélique. C'est-à-dire qu'elle a toujours continué à marcher vers une communion plus grande avec le Dieu trinitaire, une communion, si vous me permettez une analogie mathématique, une communion asymptotique. Le XXe siècle a connu une telle quantité de martyrs, cette forme très noble de témoignage de la communion de l'Esprit-Saint, que l'image idéale d'un saint qui soit parfait, irréprochable, a dû cesser. Parce que, bien entendu, ce qui est canonisé dans la reconnaissance de sainteté d'un martyr, c'est sa fin. Et donc, si certains doutent encore qu'un saint peut être imparfait, sur le plan pastoral, c'est assez clair, puisque cette nuée de martyrs que le XXe siècle a connue, dans l'ensemble du monde chrétien, prouve que la sainteté ne va pas nécessairement avec perfection dans tous les actes de la vie. Il est vrai néanmoins que le rapport à l'appareil hiérarchique de l'Église n'a pas connu, dans l'orthodoxie, de critiques systématiques, assumées sereinement par les organes pastoraux. Et le résultat est flagrant. Aujourd'hui, beaucoup d'églises orthodoxes sont tout à fait désertées. Le soi-disant renouveau religieux en ex-Union soviétique est plus une construction qu'une constatation. Ce qui importe pour vivre pleinement de la sainteté de l'Église et qui est une sainteté toujours présente en son sein, malgré les rides que peut laisser apparaître le visage ecclésial, ce qui importe, c'est d'intensifier la foi des membres de l'Église. Et à ce propos, je terminerai par une citation qui me semble très pertinente en matière de sainteté et qui peut s'appliquer à l'Église orthodoxe, d'un auteur dont je vous dévoilerai le nom après la lecture. Je le cite. « Quiconque ne prend pas un minimum d'engagement pour faire l'expérience de la foi, l'expérience de l'Église, ne prend pas le risque de regarder avec les yeux de la foi et ne recueille que déception. Le risque de l'amour est la condition première de la foi. Dès lors qu'on l'assume, il n'est plus besoin de se dissimuler la face obscure de l'Église. On s'aperçoit qu'elle a un autre visage. Il y a l'histoire de l'Église et ses scandales. Il y a une autre histoire de l'Église, celle de la force de la foi qui libère. Celle dont les siècles nous ont montré les fruits, celle d'Augustin, de François d'Assise, de Vincent de Paul, de Jean XXIII. Et cette Église a apporté dans l'histoire une traînée de lumière qu'on ne saurait effacer. Toute cette beauté que son message a inspirée et dont tant d'œuvres incomparables attestent encore aujourd'hui, témoigne de la vérité. Fin de citation, c'est un texte de Joseph Ratzinger, le futur Benoît XVI, en 1972, qui s'intitule « Église du Christ, lieu de ma foi ». Eh bien, je pense que cette citation peut tout à fait s'appliquer à cette tension, même au sein de l'Église orthodoxe, au sujet des scandales de l'Église et des rides sur son visage, mais ces rides ne font jamais disparaître la sainteté intrinsèque et tout, qui a un pouvoir toujours de renouveler et de rénover la vie de l'Esprit-Saint dans le cœur des fidèles. Merci.
Merci beaucoup, Christophe Daloisio, pour votre intervention. Merci en particulier d'avoir commencé en nous rappelant ce qu'était la méthodologie. Donc, c'est déjà de la substance, ce n'est pas que de la procédure. Et vous nous l'avez montré dans votre intervention, en particulier dans la manière d'appréhender aussi bibliquement cette notion de la sainteté. On peut retenir l'élection pour l'Ancien Testament ou par participation dans le Nouveau Testament. Et retenir ce que vous avez dit, que le saint n'est pas celui qui est irréprochable, mais celui qui est appelé. Et enfin, je voudrais vous remercier aussi d'avoir osé l'interrogation critique, notamment sur les canonisations ou l'hypersacralisation. Et je termine par l'image que vous avez donnée de la personne de Marie, et quelque chose qui était un peu nouveau pour moi à propos de la sainteté, qui est marcher dans l'espérance. Voilà, donc merci pour cette intervention, Christophe Daloisio. J'ai la joie à présent de présenter Elisabeth Parmentier. Alors Elisabeth Parmentier, on pourrait la présenter avec plusieurs mots. Je vais prendre trois thèmes, Église, théologie, bien sûr, et œcuménisme. Alors Église, pourquoi Église? Parce que Elisabeth Parmentier est pasteur. Elle a été ordonnée dans l'Église protestante de la confession d'Augsbourg, d'Alsace et de Lorraine. Mais elle connaît aussi l'Église de l'intérieur et les questions d'unité des églises au sein du protestantisme notamment, puisqu'elle a été pendant plusieurs années présidente de ce qui est connu parfois comme sous le nom de Concorde de Leuenberg et aujourd'hui la communion d'églises protestantes en Europe. Donc les questions d'unité, de sainteté, probablement des questions auxquelles tu as été confrontée. Quant à la théologie, bien sûr, Elisabeth est connue comme professeure de théologie pratique, spécialiste des théologies féministes, j'y reviendrai. Elle est professeure actuellement à la faculté autonome de théologie protestante de l'Université de Genève, faculté dont elle est doyenne depuis plusieurs années. Et bien sûr, tu es connue en particulier par ta thèse, dans un premier temps, « Les filles prodigues, éléments pour un dialogue entre les théologies féministes et la théologie classique ». Et puis, plus récemment, la démarche de « Une Bible des femmes », qui a été suivie par « Une Bible, virgule, des hommes ». Et enfin, je dis cela aussi pour les étudiants qui sont ici, parce qu'ils ont eu la chance, d'en bénéficier, un ouvrage de Christologie à deux voix, avec Michel Denecken, catholiques et protestants, théologiens du Christ au XXe siècle. Et puis si les théologies féministes font partie de tes préoccupations, il y a bien sûr aussi toutes les questions d'unité, d'œcuménisme. Elisabeth Parmentier a fait partie des premières femmes, membres du groupe des Dombes, dont elle est depuis quelques semaines coprésidente. Donc merci Elisabeth d'être parmi nous ce soir.
Merci beaucoup Anne-Cathy pour cette présentation exhaustive et merci à Christophe Daloisio de ce qu'il a présenté qui montre déjà, je pense, des fils de discussion commune que nous pouvons avoir tout à l'heure. J'y reviendrai aussi tout à l'heure. Et c'est à mon tour d'être impressionnée pour d'autres raisons que lui, puisque moi je suis censée présenter l'orientation protestante et précisément sur cette question-là de la sainteté, nous avons des accents très différents entre Église luthérienne réformée et Église évangélique. Donc je vais essayer de présenter ça de manière succincte. En fait, je pense que la spécificité protestante, tout le monde s'en doute, c'est la différenciation avec le sacré et la notion et de toute notion de sacré ou de sacralité. Ça a été le cheval de bataille de la réforme dans son ensemble, qui veut valoriser le langage de sainteté, mais ne veut pas entrer dans les catégories du sacré, tout en ayant quand même dans son histoire un enjeu de confrontation à la pureté et à la perfection. Donc je vais essayer d'y revenir. Pourquoi cette opposition au langage du sacré, dans la mesure où précisément pour la réforme, comme cela vient d'être dit, le seul Dieu est saint, et la sainteté dit l'appartenance à Dieu. Donc c'est un langage de relation. Et la réforme a voulu valoriser le fait que, précisément, ce n'est pas nous qui sommes saints, c'est par l'appartenance à Dieu, par l'élection en quelque sorte, qu'on fait partie de cette sainteté de Dieu, en quelque sorte par adoption, ce qui est qui n'est pas une valorisation, mais qui est un envoi. Et ça a été parfaitement déjà dit. Donc je n'y reviens pas. Mais pour les réformateurs, puisque cette sainteté nous vient d'un autre, il ne saurait y avoir de sacralisation, que ce soit même dans la conception de Dieu, mais également dans toute la création. Rien dans la création ne va être autre chose que en lien avec l'élément de créature, donc la sainteté. Il n'y a pas de sacralisation d'un pouvoir, de la politique, de la nature, d'idées. À aucun moment un enfermement, considéré comme enfermement, dans la catégorie du sacré. Alors on peut se dire, est-ce que c'est vrai de la Bible? Parce qu'il faut être autocritique aussi. Alors il est vrai qu'on pourrait dire qu'on peut trouver dans le protestantisme une sacralisation de la Bible. Pourquoi? Parce que c'est le chemin de révélation de Dieu, c'est la manière dont Dieu se révèle, et il y a des orientations de lecture qui peuvent être considérées comme une sacralisation du texte par rapport à l'esprit de la Bible. Donc ça, je le dis à titre d'exemple, d'autocritique que nous devons avoir, aussi d'interrogation que nous devons avoir dans nos traditions. Alors, j'en arrive dans ce premier point à faire tout de suite la différence entre ce qu'on va voir chez Luther, chez Calvin et dans les églises évangéliques par rapport à ce sujet. C'est-à-dire que pour Luther, il y a un vrai abandon de la catégorie du sacré, dans la mesure où il n'y a pas non plus de perfection possible dans la démarche de foi. Comme vous le savez, pour Luther, on demeure toujours dans la réalité du péché, non pas parce qu'on aurait commis des mauvaises actions, mais parce que nous sommes orientés vers notre être personnel, notre égocentrisme, et que de ce fait, nous nous éloignons de Dieu. Et que c'est cette relation avec Dieu qui est toujours à nouveau en risque d'abandon de la fidélité. Et en cela, de notre point de vue, nous sommes toujours en chemin de pénitence et en chemin de péché possible, pas péché d'action, mais péché au sens relationnel, mais également pardonné, justifié. Donc Luther a une posture très radicale et du coup désacralisante. Il n'y a pas de sainteté au sens perfection, pureté, dans l'action possible. Chez les réformés, c'est différent, parce que Calvin va valoriser le fait que nous pouvons, comme croyants, entrer sur un chemin de sainteté, marcher dans la sanctification et nous améliorer en quelque sorte, non pas par nos efforts, mais parce que nous respectons la loi, d'où l'importance beaucoup plus grande qu'il confère à la loi de Dieu comme chemin possible et comme chemin positif. Et nous allons avoir également dans les orientations évangéliques, que ce soit dans le méthodisme ou dans d'autres courants d'église confessante, cette possibilité d'un chemin de sanctification. Dans le méthodisme, c'est très fort, par exemple. Voilà, donc ça c'est le premier point. Donc on a des attitudes diverses à cet égard-là. Ce qui ne change rien au fait qu'il va y avoir une allergie à toute sacralisation, et ça c'est commun, qui serait indue. Alors qu'est-ce que c'est? Les reliques, le traité de Calvin contre les reliques, qui ne peuvent, ne doivent pas avoir une importance en elles-mêmes, des objets considérés comme sacrés, des choses de la création qui seraient considérées comme sacrées. De même, et ça je vais y venir tout de suite dans le deuxième point, la question de l'Église et de ses autorités, bien sûr. Toute tentation de sacralisation d'une élite ou de personnes ou d'un pouvoir est évidemment bannie dans cette orientation. Mais j'en arrive au deuxième point, j'en aurai cinq en tout, mais j'essaierai bien de le faire de manière, réduite pour simplement montrer les enjeux. Le deuxième point, c'est la question de la canonisation des saints, puisqu'elle nous ouvre à la question de l'Église, comme cela a été dit déjà précédemment par Christophe. Alors, qui sont les saints ? Pour le protestantisme, c'est d'abord le terme du Nouveau Testament que l'apôtre Paul utilise, les croyants des communautés, qui sont les saints, comme Paul les appelle. C'est tout simplement les saints, dans cette logique, ce sont ceux qui ont été appelés par Dieu, et en cela, la grâce de Dieu se manifeste à travers eux, mais non par eux. Donc ils sont saints parce que Dieu agit à travers eux, son esprit agit à travers eux, mais pas de leur propre force. Là, il y a une différence très nette, et l'autorité de cette grâce n'est renvoyée qu'à Dieu. Donc, Martin Luther n'avait pas d'opposition aux saints en tant que tels. Et Anne-Cathy a bien écrit sa thèse à propos de Marie, et on voit bien chez Luther, puisque c'était un des enjeux aussi de son travail, combien Luther vénère Marie et sa sainteté. Mais ce n'est précisément pas une sainteté qui serait une perfection, mais c'est précisément parce qu'elle a été élue, parce qu'elle a été choisie par Dieu, du fait de sa faiblesse, de son humilitas, qui n'est pas une vertu, mais qui est sa faiblesse. Mais je ne vais pas entrer là dans ce sujet, simplement pour dire que ce que Luther contestait, c'était évidemment les prières, l'invocation des saints, ça tout le monde le sait. Mais pourquoi est-ce qu'il s'énervait contre l'invocation des saints? Tout simplement parce que on invoquait les saints par peur de la mort et pour la protection. Et ça, précisément pour Luther, c'était une superstition indue, que les saints puissent protéger de la mort et conférer le salut et qu'on ne s'attache pas simplement au Christ pour cela. Mais la vénération n'était pas du tout son problème en tant que tel. Il avait peur qu'on crée un nouveau panthéon pour se protéger de la mort au lieu de se rattacher au Christ seul. Là était l'enjeu pour Luther. Alors, renforcé par un deuxième problème, le deuxième problème, c'était le fameux bénéfice offert par le trésor des saints pour les indulgences, comme vous le savez, et où précisément les mérites surabondants du Christ et des saints aidaient pour alléger le purgatoire. Et en cela, à nouveau, c'était l'unicité du Christ comme sauveur qui était remise en cause. D'où ce refus de la vénération des saints, malheureusement massif, qui fait que, mais j'y reviendrai tout à la fin en conclusion, nous ne célébrons pas la communion des saints, la Toussaint, malheureusement, je le regrette profondément, mais ça c'est un petit point personnel auquel je reviendrai à la fin. Donc, j'aborde ce point parce que cette question de la canonisation des saints n'est pas un détail théologique, mais c'est l'entrée vers la troisième question qui sera le troisième point, c'est-à-dire si l'Église peut décréter qu'il y a un trésor des mérites des saints, c'est que l'Église se donne une sorte d'autorité, en quelque sorte à mi-chemin entre Dieu et les croyants, pour donner une autorité par rapport au salut. Et ça, c'était évidemment l'allergie des réformateurs contre ce pouvoir que s'arrogeait l'autorité ecclésiale pour dire ben, « il y a ce trésor des saints et il peut donner un allègement du purgatoire ». Alors, est-ce que l'Église est sainte? C'est le troisième point. Et en quoi l'Église est sainte? Alors, jamais aucun réformateur n'a nié que l'Église était sainte. Et elle est bien confessée comme sainte Église catholique dans le credo. Alors, on pourrait dire maintenant on pourrait voir l'Église de deux manières différentes, en disant facilement elle est sainte, parce que c'est l'Église confessée dans le credo, quelque part une église un peu platonique, mais c'est pas la vraie église. On pourrait dire c'est ça, alors elle est sainte. Ou de l'autre côté, l'église est sainte, mais la communauté visible, c'est juste un rassemblement des croyants, et la vraie église sainte, elle est ailleurs. Mais en fait, les réformateurs n'ont adopté ni l'un ni l'autre, ni l'une ni l'autre posture. Ils ont bien considéré l'église sainte à la fois visible et invisible. Et ça, c'est un point que je souligne parce qu'on croit toujours que les protestants ne veulent pas valoriser l'église visible et ne valorisent que l'église invisible. Et pas du tout, en fait. Ils ont tous insisté sur le fait que l'église s'incarne. L'église du Christ s'incarne dans les réalités visibles. Et elle est donc sainte dans ses réalités visibles. Mais la difficulté de sa sainteté, c'est qu'elle n'est précisément pas facilement trouvable. Ce qui est la sainteté de l'Église est donné par Dieu, par l'élection, par l'œuvre rédemptrice du Christ, deuxièmement, troisièmement par la présence du Saint-Esprit, et quatrièmement par la promesse du Christ de donner un avenir à son Église. Donc pour ces quatre raisons, elle est sainte, l'Église. Mais mon quatrième point, donc vous voyez qu'elle est entièrement sainte parce qu'elle reçoit. Mon quatrième point, c'est en quoi est-elle sainte? Dans ce qu'elle fait et dans ce qu'elle est. Et là, nous avons une question très, très difficile. Et les réformateurs vont répondre par le fait que l'Église sainte est cachée, même dans la visibilité. Je pense que ça, c'est un point original aussi du protestantisme, cette notion d'église cachée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement que, à la manière de Dieu, qui est à la fois Dieu sauveur, mais Dieu qui se cache, Dieu qui n'est pas immédiatement accessible par le visible, par les sens, par les efforts, mais il est aussi Dieu, il est Dieu révélé et Dieu caché, il y a cette tension. De même, l'Église est un corps mélangé, corpus per mixtum, comme dit la confession d'Augsbourg, et corps mélangé, ça veut dire elle est à la fois Église pleinement appelée et à la fois faillible. Et donc toute la conception réformatrice de l'Église va insister de manière certainement polarisée sur la faiblesse de l'Église et sur la faillibilité de l'Église, certainement plus que toutes les autres confessions, en tout cas les réformateurs classiques. Ça n'est plus tellement le cas aujourd'hui dans les Églises actuelles, mais c'est notre tradition. Et en fait, c'est parce qu'on rapproche cette réalité cachée divine de la souffrance du Christ en disant de la même manière que Dieu est présent mais de manière cachée en Christ souffrant, le Dieu du salut est caché dans le Christ souffrant qui est pourtant visible, de la même manière la réalité de salut qui est dans l'Église et que l'Église transmet, elle est cachée dans la réalité de l'Église telle qu'elle est. Donc c'est une vision très, pas seulement réaliste de l'Église, mais aussi théologique. Alors j'en arrive au cinquième point, qui est la question du péché. Est-ce qu'on parle du péché dans l'Église, ou est-ce qu'on parle du péché de l'Église, la peccabilité de l'Église? Alors, évidemment, j'ai vérifié dans le dialogue luthéro-catholique, il y a un accord entre luthériens et catholiques, notamment dans Église et justification, où il y a toute une partie sur la sainteté de l'Église, où il y a un consensus qui est annoncé. Mais je ne suis pas persuadée que je pourrais suivre jusqu'au bout ce consensus. Le premier élément de ce consensus, c'est de dire la parole « l'Église ne peut pas se tromper » revient souvent chez les réformateurs, c'est au paragraphe 152 de Église et justification. La parole « l'Église ne peut pas se tromper » revient souvent chez les réformateurs, sous une forme ou sous une autre, et le dialogue catholique-luthérien a fait référence bien des fois à cette conviction commune, comme s'il y avait une différence entre « l'Église ne se trompe pas, elle est infaillible dans ce qu'elle annonce, mais elle peut se tromper dans sa vie, dans sa manière d'être, où elle n'est pas sans péché. Et moi, je trouve cette différenciation que fait le texte d'Église de justification très délicate aujourd'hui, même si j'ai toujours appris, effectivement, dogmatiquement, on nous a toujours dit, à nous les autres luthériens en tout cas, que l'Église ne peut pas se tromper dans son annonce de l'Évangile. Et je l'interprète plutôt dans le sens où quand elle célèbre les sacrements, quand elle célèbre le culte et qu'elle annonce l'Évangile, elle dit, elle ne se trompe pas, elle annonce de manière fiable en célébrant, parce que le culte est une réalisation fiable. Je pense que c'est dans ce sens-là que je peux le comprendre. Mais le fait de parler de parole que l'Église ne peut pas se tromper dans sa parole, personnellement, j'ai beaucoup de difficultés avec ce consensus qui est annoncé ici. Mais alors, la question se pose, pourquoi les protestants vont-ils encore un pas plus loin et affirment-ils que l'Église est pécheresse en tant que telle? Et là, c'est simplement pour expliquer que précisément, elle est comprise par la Réforme au même titre que chaque fidèle. L'Église en elle-même, elle est creatura verbi, elle est créature, elle est sur la terre comme les gens, comme les humains, et elle est en quelque sorte considérée comme eux, à la fois pécheresse, à la fois justifiée. C'est-à-dire appelée par le Seigneur, dans ce qu'elle est, à promouvoir l'Évangile, à parler du salut, mais dans ce qu'elle est. Et c'est pourquoi elle a constamment besoin de pénitence, de pardon des péchés, de purification et de renouvellement. Et je dirais là, on est plus radicaux que les autres églises, puisqu'on dit, on rappelle toujours que ce n'est pas une communauté de purs. Judas a été dans le repas du Seigneur, il a partagé le dernier repas du Seigneur avec les disciples, il n'a pas été mis à la porte par Jésus avant que celui-ci ne célèbre le repas. Et en cela, la Sainte Cène est l'expression de cet accueil de tous les pécheurs, à la fois pécheurs, à la fois justifiés. Voilà. Alors ici, il y a une radicalité et qui va jusqu'à une question couramment posée dans l'œcuménisme. Est-ce que l'épouse du Christ, et comme cela vient d'être dit, l'Église épouse du Christ, qui est aussi notre expression, est-ce qu'elle l'est par appartenance? Elle est sainte par appartenance, elle est sainte par appel. Est-ce qu'elle est aussi sainte dans son action personnelle? Voilà, ça c'est une question très très difficile, où les églises évangéliques répondront oui, elle peut marcher en sainteté, les églises réformées aussi, elle peut marcher dans la sanctification réelle, effective, et progresser dans cette sainteté. Et j'en arrive au dernier point, qui est la question de l'autorité de l'Église et de ses décisions. Est-ce qu'elles font autorité dans la mesure où on considère toujours l'Église dans le protestantisme avec un œil qui rit, un œil qui pleure, si je puis dire, toujours avec suspicion par rapport à tout ce qui est institutionnel? En fait, ça relève plus d'une réaction culturelle que d'une réaction théologique, puisque nous devrions précisément avoir aussi cette confiance que cette Église appelée, elle a aussi cette autorité donnée par Dieu et donnée par le témoignage qu'elle apporte. Mais en même temps, il y a cette vision réaliste que nous trouvons depuis les réformateurs sur l'être humain, que l'Église peut se tromper, un concile peut se tromper, le pape peut se tromper, et donc à plus forte raison, les autorités protestantes se trompent également, fréquemment, et de même les fidèles et les paroisses. Donc on a ici une démarche d'autocritique persistante par rapport à nos institutions, qui est le revers de cette réflexion. Alors j'en arrive au dernier point, une interrogation personnelle, juste quelques phrases d'interrogation pour la conclusion. J'ai déjà évoqué le refus protestant de la communion des saints, que je déplore profondément, que je pense qu'il est à revoir, parce que on a en refusant la communion des saints ou la Toussaint, on refuse évidemment, du point de vue de la Réforme, une certaine conception de la sainteté comme sacralisation d'une perfection morale, d'une perfection de vie. Et comme cela vient d'être dit, le concept de sainteté n'est pas nécessairement ce concept-là. Et donc, refuser en bloc la communion des saints, par crainte que cela ne révèle une sorte de choix clérical, de mise en avant de certains par rapport au sacerdoce de tout le monde, par rapport au sacerdoce unique. Je pense que c'est un faux problème. Je pense qu'au contraire, la communion des saints est à comprendre aussi de manière protestante comme une valorisation des témoins de la foi et aussi de la communion, comme précisément cet appel de la nuée des témoins, cet appel qui vient de Dieu et qui n'est pas la sainteté personnelle. Donc je plaiderai vraiment pour repenser théologiquement la communion des saints. De même, je me pose la question, si le fait de dire « rien n'est sacré » n'est pas aussi une perte de la valeur des choses. Alors qu'on n'attache pas le terme de sacré à tout ce qui est humain, créature, création, c'est bien sûr, c'est un garde-fou important, mais il y a quand même des choses dont il est important qu'elles sont précieuses. Et le fait de dire une vie est sacrée, il me semble que on peut le comprendre dans un sens de valorisation des personnes, de la vie, et pas uniquement dans une défiance à l'égard de ce qui serait intouchable ou bien de l'ordre d'une mise à part. Donc je crois qu'il faut aussi revoir notre manière d'utiliser le terme de sacré. Et évidemment, tout dernier point, personnellement, je pense que dans le monde d'aujourd'hui, il y a une véritable difficulté avec la notion de pureté et la notion de perfection. Alors, comme je vis dans un monde calviniste maintenant, j'ai réalisé à quel point la notion de la pureté a été développée dans la théologie calviniste et surtout aussi dans l'acception courante de l'éthique calvinienne. Et je pense que c'est un risque. Parce que dès lors que quelque chose est pur, il y a des séparations et des difficultés qui se présentent. Mais on y reviendra dans la discussion. De même, la perfection. Autant on peut dire il est louable d'être appelé à la perfection, autant cette perfection doit être nuancée. Donc voilà, je pense que les églises de la Réforme doivent être autocritiques entre ces quatre termes, sainteté, sacré, perfection et, quel était le quatrième, pureté. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Elisabeth. Merci beaucoup de nous avoir montré, au fond, les tenants et aboutissants des positions des Églises réformées au sujet de cette question de la sainteté de l'Église. On a bien entendu la différenciation forte entre le saint et le sacré, la position par rapport à la communion des saints, bien sûr la notion de l'Église cachée, la compréhension du péché. En quel sens l'Église ne se trompe pas, mais en même temps donc cette affirmation radicale de l'Église pécheresse. Et merci aussi pour les ouvertures à la fin ou les questions critiques qui peuvent contribuer à instaurer un débat au sein même des Églises de la Réforme. Je suis très heureux de présenter maintenant, d'introduire l'exposé du père Joseph Fameret. Joseph Fameret est prêtre de la Société du Sacré-Cœur d'Éonia et actuellement, depuis plusieurs années, provincial de cette société. Licencié agrégé en philologie, il est docteur en théologie, il est professeur émérite de la faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain, dont il a été le doyen pendant plusieurs années. Et Joseph Fameret a notamment enseigné l'ecclésiologie, l'œcuménisme et la théologie des églises orientales. Il a beaucoup travaillé en particulier sur Vatican II, avec un ouvrage important, Vatican II comme style. Et il a beaucoup écrit dans le champ de l'ecclésiologie avec un intérêt particulier pour les dialogues catholiques orthodoxes, comme en témoigne en particulier le gros recueil d'articles qui est paru en 2019 sous le titre « Ecclésiologie et œcuménisme ». J'ajoute que depuis quelques semaines, Joseph, qui était depuis un certain nombre d'années membre du groupe des dons, est devenu co-président catholique. Nous ne savions pas, quand nous avons invité Elisabeth et Joseph, nous ne savions pas qu'il serait élu quelques mois après co-président, mais voilà, c'est une coïncidence. Eh bien, merci beaucoup, Joseph, de pouvoir intervenir à ton tour.
Merci beaucoup, Michel, pour cette introduction. Merci aussi à mes deux collègues qui ont bien posé des accents propres. L'Église sainte, question pour l'Église catholique. Je commencerai par me mettre brièvement à l'écoute de la situation récente et actuelle de l'Église catholique. Dans un second et troisième temps, en m'inscrivant brièvement dans la tradition longue de l'écriture à Vatican II et à certaines propositions théologiques postérieures, quelle réflexion cette situation présente inspire-t-elle à un théologien catholique? Premier point, première section, voir, écouter, reconnaître la situation. Aujourd'hui en Europe et plus largement en Occident, ce sont les dimensions de l'Église exposées au chapitre 1, 5 et 7 de la Constitution dogmatique Lumen Gentium du Concile Vatican II qui semblent y être les moins reconnues et en tout cas y constituer un des principaux défis pour l'intelligence contemporaine de la foi. Le mystère de l'Église, sa sainteté, son caractère eschatologique, aussi au sens de son union actuelle avec l'Église dite céleste, dans un contexte culturel d'indifférence religieuse et de sécularisation depuis plusieurs décennies, la question de l'être profond, théologal, invisible pour l'essentiel de l'Église ne va plus de soi et doit certainement être retravaillée par la théologie pour être reproposée de manière pertinente aux croyants occidentaux de ce temps. La grande question qu'il faut reprendre plus que jamais à présent est pourquoi, en un mot ou en deux, pourquoi l'Église? Quel est le sens de l'existence, de la présence de l'Église dans le monde et dans l'histoire? Mais aussi, quelle présence? Comment repenser l'Église comme sacrement, signe de salut? Précisément, deux notes de l'Église ont un criant besoin d'être revisitées. La sainteté et la catholicité. Cette dernière, je vous le dis déjà, a été traitée dans un nouveau document du groupe des Dombes qui sortira en novembre aux éditions du CERF. Une petite minute de publicité. La sainteté actuellement n'est-elle pas devenue la note ecclésiale la moins croyable? Non seulement en raison de la non-évidence de la foi chrétienne aujourd'hui, culturellement parlant, mais aussi pour des raisons éthiques et spirituelles. Quand on songe au passé, mais aussi aux scandales qui ont éclaté au sein de l'Église depuis quelques décennies, et spécialement depuis quelques années, scandales financiers, mais surtout sexuels, avec tous ces actes pédophiles commis notamment par des prêtres, comment penser et confesser avec le credo la sainteté de l'Église? La distinction entre Église sainte et membres pécheurs de celle-ci est-elle encore satisfaisante, crédible? Il faut reprendre le dossier en face de tous ces péchés qui défigurent l'Église et qui sont restés longtemps cachés à cause d'un système ecclésiastique défigurant lui-même l'Église. Pourra-t-on désormais faire l'économie du péché de l'Église elle-même? voire éviter de qualifier l'Église elle-même de pécheresse, Ecclesia peccatrix, si l'on veut réfléchir de manière pertinente et crédible sur sa sainteté. La sainteté de l'Église n'est plus seulement mise en doute de l'extérieur par l'absence de foi, mais aussi de l'intérieur par les catholiques eux-mêmes. Le caractère massif et systémique des abus à des degrés divers, n'en sommes-nous pas tous peu ou prou partie prenante par manque de lucidité, une forme de silence? En tout cas, ce caractère massif et systémique des abus mine la confiance des catholiques en leur Église, notamment dans ses pasteurs, ses responsables, leurs discours et enseignements, leurs actions, voire les sacrements qu'ils président, sans parler des diverses institutions ecclésiales. La confiance en l'Église, sa crédibilité, est radicalement ébranlée. Comment la reconstruire? Le tsunami des révélations d'abus emporte tous les ministres de l'Église et la perte de confiance les atteint tous d'une manière ou d'une autre, comme si tous étaient coupables d'abus. En un temps de révélation aussi massive, il est difficile de faire des distinctions et un discernement pacifié. Il faut regarder le mal de l'Église en face, dans toute sa noirceur, le regarder ensemble, partager nos réactions, nos émotions, avant de chercher ensemble des réponses. On peut le comprendre, on ne voit plus que la dimension pécheresse de l'Église. On n'arrive plus à discerner sa sainteté. Et pourtant, la tradition chrétienne ancienne ne qualifie jamais l'Église de pécheresse en elle-même, Ecclesia peccatrix, mais toujours de sainte, Credo in unam sanctam ecclesiam. Comment comprendre cela? Car le mal n'a pas manqué au sein de l'Église depuis ses origines. Deuxième point, retour aux sources. Je voudrais revenir à au moins un texte de l'Écriture qu'on a évoqué tout à l'heure et un de la tradition ancienne notamment. À propos des relations nouvelles entre mari et femme dans le Seigneur, l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, offre un enseignement important sur la relation entre le Christ et l'Église et la sainteté de celle-ci. Donc je rappelle quelques versets de ce passage. « Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. » Il a voulu ainsi la rendre sainte, en la purifiant avec l'eau qui lave, et cela par la parole. Il a voulu se la présenter à lui-même splendide, sans tache ni ride, ni aucun défaut. Il a voulu son Église sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Sa propre chair, on l'entoure d'attention, comme le Christ fait pour son Église. Ne sommes-nous pas les membres de son corps? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne seront qu'une seule chair. Ce mystère est grand, je déclare qu'il concerne le Christ et l'Église. En tout cas, chacun de vous, pour sa part, doit aimer sa femme comme lui-même et la femme respecter son mari, selon la traduction de la Tope ici. Tête de l'Église, sauveur de son corps ecclésial, le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle pour la rendre sainte en la purifiant. Par le baptême, peut-on interpréter le bain de l'eau dans une parole. C'est l'acte unique de la croix qui sanctifie et purifie l'ensemble de l'Église dans la confession de foi baptismale. La référence à Genèse 2,24 fait apparaître l'épouse comme la propre chair, le propre corps de son époux, une autre lui-même. Ainsi, l'Église épouse est-elle le propre corps du Christ époux, dans la différence, cependant. Le Christ est la tête, le sauveur du corps ecclésial. L'alliance conjugale du Christ et de l'Église est une union, une intimité réciproque, sans confusion, cependant, ni séparation. L'un et l'autre sont distincts et mettent en œuvre leur liberté propre, mais ils sont unis, l'Église n'existant comme telle que par la grâce de son Sauveur. C'est de cette union et intimité avec le Christ, Fils de Dieu, que l'Église reçoit sa sainteté. Nous l'avons redit, nous l'avons entendu plusieurs fois déjà. Sa distinction d'avec le Christ, dans sa liberté propre, ne garantit cependant pas qu'en tout et à tout moment, elle se laisse pleinement sanctifiée par le Christ. D'où la conversion profonde, la pénitence, la purification, la réforme dont l'Église, en chacun de ses membres et collectivement, a sans cesse un pressant besoin tout au long de son pèlerinage terrestre. La révélation chrétienne néo-testamentaire, si elle est bien loin d'ignorer le besoin permanent de conversion des disciples de Jésus et de l'Ecclésia qu'ils forment, se plaît néanmoins à révéler d'abord et avec insistance le don, le pardon de Dieu, son initiative de salut et de sanctification, en d'autres mots, la bonne nouvelle, quelles qu'en soient les exigences subséquentes pour la liberté humaine, personnelle et interpersonnelle en Église. Les premières décennies post-apostoliques auront le souci constant de préserver le mystère de l'Église unique et sainte face à de nombreuses autres assemblées jugées hérétiques, partiales et infidèles au mystère révélé, du moins à sa totalité. C'est ainsi que face au groupement d'ossètes et gnostiques, les premiers symboles de foi ressaisiront l'essentiel de la foi chrétienne pour la préserver et la transmettre, y compris à propos de l'Église. Un seul exemple, la lettre des apôtres, un apocryphe écrit vers 160-170 en Asie mineure, qui contient ce qui semble bien être un symbole de foi tout simple en 5 articles coordonnés. Nous ne l'avons gardé qu'en éthiopien, mais je ne vais pas me risquer. Donc, traduction française tout de suite. Donc, ce sont manifestement 5 articles d'un credo, d'un premier credo au sein de cette lettre. Sous-entendu, je crois, nous croyons, au Père, Maître de l'univers, et en Jésus-Christ, notre Sauveur, et au Saint-Esprit, Paraclet, et en la Sainte Église, et en la rémission des péchés. Donc, dans la foulée de la confession de foi au Père, en Jésus-Christ et en l'Esprit-Saint, vient l'Église, sainte de la sainteté même de l'Esprit envoyé sur elle, ainsi que la rémission des péchés, dont l'Église est le lieu en ayant reçu le ministère. L'Église sanctifiée par l'Esprit est la ministre en Christ de la rémission des péchés qui sanctifie. Ainsi, la tradition ancienne, on pourrait le montrer en détail, répugne-t-elle à qualifier l'Église elle-même de pécheresse ? Les symboles de foi sont convergents. Si le baptême suivi ultérieurement du sacrement de pénitence est nécessaire pour la rémission des péchés, et se reçoit d'ailleurs dans l'Église et par son ministère, l'Église est toujours confessée sainte et n'est jamais qualifiée de pécheresse en tant que telle. Une seule exception, à ma connaissance, conservée dans la tradition latine d'inspiration origénienne. Peccatrix Ecclesia, on trouve cela, un apax, me semble-t-il, chez Hilaire de Poitiers. Mais il faut bien comprendre l'expression. chez Hilaire de Poitiers, l'origine désigne la réalité. Et l'origine, c'est l'Église qui est faite à partir des publicains et des pécheurs. Donc c'est en ce sens qu'il emploie le mot peccatrix, alors que la réalité essentielle, la réalité actuelle de l'Église est essentielle et d'être sauvée. Il n'en reste pas moins que dès les écritures néo-testamentaires, l'Église est comprise aussi comme une assemblée de pécheurs appelés sans cesse à se convertir et à se laisser sanctifier. Augustin, notamment, n'hésitera pas à parler d'ecclésia mixta, hein, ce que reprendra la confession d'Augsbourg, ou de corpus permixtum, de corps mélangé, d'église mélangée, de saints et de pécheurs. Au XXe siècle, le Concile Vatican II s'inscrira dans la même ligne, tenant à la fois la sainteté de l'Église et la présence en elle du péché qui la blesse. Hein, au numéro 8 de Lumen Gentium, on lit « L'Église, elle qui enferme des pécheurs en son sein, est donc à la fois sainte et toujours appelée à se purifier. Sancta simul et semper purificanda. Hein, sancta justa simul. Hein. Et pourtant, constamment son effort de pénitence et poursuit constamment son effort de pénitence et de renouvellement. Ce paradoxe de la sainteté de l'Église et de la présence en elle des pécheurs est bien tenu à Vatican II. Est-il cependant possible de mieux articuler sainteté de l'Église et péché dans, voire de l'Église, d'une manière plus réaliste, plus historique? C'est ce que nous allons tenter en nous laissant inspirer par le théologien Christian Ducoq. C'est la troisième partie, reprise théologique contemporaine. La tension ecclésiale entre sainteté et péché ne s'inscrivent peut-être pas suffisamment dans une perspective eschatologique dans la somme pionnière du père Yves Congar en 1950, « Vraie et fausse réforme dans l'Église ». Il y avait peut-être là une lacune de perspective eschatologique. Cette perspective donc eschatologique, qui est bien présente dans le corpus de Vatican II, le sera de manière systématique dans l'œuvre de Ducoq, dominicain comme Congar, mais de 20 ans son cadet. Pour Ducoq, l'Église, du fait qu'elle est historique et institutionnelle, est une donnée sociale empirique, objet par le fait même d'investigation scientifique. C'est par les buts qu'elle vise anticiper le règne de Dieu, l'idéologie qu'elle véhicule, le message évangélique, et la conscience qu'elle a d'elle-même, prendre origine dans la Pâque de Jésus et le don de l'Esprit, c'est par là que l'Église se dit être d'un ordre différent de celui des autres institutions. Elle est ainsi qualifiée d'attributs qui ne sont pas immédiatement empiriques, une sainte catholique et apostolique. La thèse est la suivante. Si ces notes s'appliquent aux églises visibles, c'est comme à distance et avec réticence, écrit Ducoq dans un premier livre que j'utilise, intitulé « Des églises provisoires, essai d'ecclésiologie écuménique » publié au CERF en 1985. Ainsi, de la note ecclésiale de sainteté, si Vatican II, selon Ducoq, affirme la sainteté de l'Église, c'est en raison de sa source, puisqu'il s'agit de Dieu, du Christ et de l'Esprit, et parce que l'Église a les moyens de faire accéder à la sanctification par le don de l'Esprit, la lecture de l'Écriture, la célébration des sacrements et la pratique éthique. les membres de l'Église visible ne sont pas individuellement et collectivement saints. Mais l'Église visible, écrit encore Ducoc, représente un dispositif symbolique conduisant à la sainteté en vertu du don de Dieu. On évite ainsi, estime-t-il, une interprétation tant sectaire qu'idéaliste de l'Église. Seul l'accord aux exigences évangéliques sanctifie. Mais cela ne donne pas prise à une investigation empirique. Une Église empirique, historique, visible, institutionnelle, ne peut répondre des quatre notes ecclésiales du symbole de Nicée-Constantinople. Ainsi, l'Église n'est-elle pas sainte, puisque son histoire est marquée par ses fautes? Faut-il pour autant déclarer ces notes eschatologiques comme s'appliquant à l'Église du royaume ou à l'Église idéale? Ce serait, dit Ducoc, manquer la fonction régulatrice et impérative de ses attributs ecclésiaux. Il ne peut en effet y avoir une rupture entre Église terrestre et royaume, dont elle doit être le sacrement. Les quatre éléments structurels sont déjà présents dans les Églises, et parce qu'ils le sont dans la brisure, la médiocrité et le particularisme, c'est-à-dire à l'état fragmentaire, ils sont des impératifs internes de transformation et des appels précisément à une réalisation, à un accomplissement eschatologique. Quel est donc le lien de ces notes aux églises empiriques? L'hypothèse est que ces qualités transcendantales sont une manière concrète de signifier l'Église en fonction de ce vers quoi les Églises tendent. Il faut envisager le futur dans le présent des Églises terrestres sous un mode original, ni idéal, ni utopie. Cette différence dans le présent est arc-boutée d'une part à la sacramentalité et au don de l'Esprit, la nouvelle naissance par le baptême. D'autre part, à leur pratique, le dispositif symbolique est exigence d'action. Ainsi, les Églises, dans leurs conditions provisoires, sont-elles à la fois un lieu d'expérimentation risquée et un lieu d'interrogation dépendant de ce dispositif symbolique. Dans leur réalité empirique, historique, institutionnelle, les Églises se laissent-elles interroger et pousser à une pratique risquée de conversion, en raison même de la distance, du dispositif symbolique et sacramentel qui les relie et à la fois les distancie du règne de Dieu. Le caractère provisoire des Églises, leur distinction, leur écart par rapport au règne de Dieu, me semble ici bien pensé, leur lien avec le règne de Dieu, le don du Dieu Saint, sont-ils cependant suffisamment attestés dans leur prégnance et la réalité au cœur même de l'histoire? Telle est la question critique que je poserai à cet ouvrage stimulant. Ce lien des Églises avec le règne de Dieu, qui n'est peut-être pas affirmé avec toute la prégnance souhaitable, peut-être, dans ce livre des Églises provisoires, ce lien des Églises avec le règne de Dieu me semble beaucoup mieux attesté dans un livre postérieur du même Christian Ducoc, intitulé « Je crois en l'Église », sous-titre « Précarité institutionnel et règne de Dieu ». C'est un livre de 1999, où il pense aussi plus profondément les effets pervers, non voulus, de l'institution ecclésiale en tant que telle. Je vous donne une citation, mais je crains que je n'ai déjà dépassé mon temps. Je peux continuer un petit peu. Ça peut aller assez vite. Donc, je fais d'abord une citation de ce nouveau livre. Ainsi, la sainteté qualifie l'origine, la structure et la finalité de l'Église. Il serait inconvenant, écrit Ducoq, de critiquer ou d'affaiblir cette théologie objective de l'Église en son idéalité et en sa visibilité sacramentelle. Il serait cependant vain ou léger de cacher la distance qui éclate au grand jour entre cette confession de sainteté et le mouvement historique de l'institution. Fin de citation. Et alors, un élément qui me paraît intéressant pour essayer de penser une meilleure articulation entre sainteté et péché dans l'Église, Ducoq dit « L'Église ne peut témoigner de sa sainteté objective liée au don de Dieu. L'Église ne peut témoigner de sa sainteté objective que par la médiation d'un peuple subjectivement pécheur dans son effort même de fidélité à l'Évangile. Tel est le paradoxe, telle est l'ambivalence de la sainteté ecclésiale. Le peuple pécheur est perçu comme structuré par une Église sainte, au sens du don de Dieu, dont la réalité concrète n'est accessible que par la médiation opaque des actions humaines. Il y a une ambiguïté quasi charnelle de l'institution ecclésiale. Les intérêts manifestes du peuple ne coïncident pas nécessairement avec sa destination objective. En outre, l'inscription de l'institution dans un peuple produit des effets inattendus. La volonté de bien faire de l'institution n'assure pas automatiquement des effets bénéfiques. Tel est aussi le tragique de l'existence ecclésiale. Si la sainteté objective de l'Église est sacralisée et absolutisée hors histoire, alors cette sainteté sacralisée joue le rôle d'une idéologie qui aveugle sur les enjeux présents et les intérêts inconscients. Et je vous lis encore une citation. « Penser ensemble la sainteté objective et la subjectivité pécheresse du peuple de Dieu, c'est accepter que l'Église visible, bien qu'elle soit témoin de l'invisible, s'interprète selon un schéma corporel, celui de l'ambiguïté. L'Église visible est témoin en étant ce mixte inséparable, saint et pécheur. Ce mixte est le mode d'être de l'Église historique. Ce mixte vaut et pour le peuple et pour l'institution. » Fin de citation. Cette manière d'envisager l'Église invite à la souplesse de l'interprétation, sans conduire à une relativisation de son être et de sa mission. L'institution ecclésiale est sainte par sa finalité, c'est-à-dire relier l'homme à Dieu. Si elle préfère sa survie institutionnelle, son intangibilité à cette tâche toujours nouvelle de relier l'humain à Dieu, elle faillit à sa destination. N'est-ce pas ce qui s'est passé trop souvent au sein de l'Église catholique dans la question des abus? Une préférence pour la survie institutionnelle et un oubli de la destination finale de l'Église. Et je termine. La sainteté, écrit encore Ducoq, est l'ouvert et non le fermé, avec peut-être une réminiscence d'Henri Bergson. Elle est une tâche constante. Sinon, si elle n'est pas ça, l'inscription institutionnelle de l'absolu dans la contingence sociale cause la violence d'une doctrine et d'une autorité qui sont pourtant vouées par vocation à la non-violence. Et j'ajouterais personnellement que les assemblées synodales, ecclésiales, liturgiques des églises locales, encouragées par le pape actuel, sont des lieux et des moments particulièrement importants pour penser et vivre ensemble la sainteté de l'Église comme un mouvement incessant, une conversion incessante vers sa finalité, le royaume. Ce que j'apprécie, en conclusion, ce que j'apprécie dans ce que je considère comme une remarquable réflexion de Ducoq sur l'inéluctable ambivalence institutionnelle de la sainteté ecclésiale, ce que j'apprécie, c'est qu'elle articule fermement et indissolublement, en quelque sorte, sainteté et péché de l'Église historique. Je vous remercie pour votre attention. J'ai dépassé le temps.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joseph. Je crois que c'était très important, effectivement, de rappeler au début la question de fond. Enfin, comment concilier l'affirmation de la sainteté et celle du péché dans la tradition catholique, c'est vraiment une croix. Comment articuler cela? Et je crois que le retour aux sources est tout à fait important. De rappeler effectivement comment le Nouveau Testament parle de la sainteté de l'Église et faire écho aussi à la tradition ancienne de l'Église. Mais merci surtout pour cette ouverture avec le dernier développement, moyennant le passage par deux ouvrages de Christian Ducoq. Effectivement, une réflexion qui déplace un peu la problématique habituelle, avec cette insistance sur le rapport entre le présent et le futur auquel les Églises sont appelées, et aussi ces précisions tout à fait importantes sur le rapport entre l'Église et le règne de Dieu. Voilà, merci pour tout cela qui, je pense, peut soulever des questions. Alors, je ne sais pas, peut-être que déjà, entre vous, vous souhaitez peut-être réagir, ou sinon, on va tout de suite prendre des questions de la salle, comme vous voulez.
Je pense que c'est plus bon.
Alors, je propose donc qu'on écoute peut-être deux questions pour commencer, deux ou trois questions. Il y a un micro qui va circuler.
J'étais très touchée par ce que Christophe Daloisio a dit concernant l'Église locale comme quelque chose de palpable. C'est sans doute parce que je suis pasteur de paroisse locale. Je trouvais ça très intéressant. Je trouvais aussi ce qui suivait assez interpellant aussi, qu'il n'y a pas d'Église universelle et que cela est abstrait. Je trouvais ça intéressant. Je trouvais également très intéressant l'idée qui venait de chez Elisabeth concernant quelque chose autour de la non-sainteté et chez les protestants de l'Église. Je trouvais ça aussi très intéressant, mais il y a aussi la question du status confessionis qu'on devrait aussi essayer d'aborder pour dire il y a des limites aussi à l'inclusion et à l'exclusion dans tout ce que vous avez dit tous les trois, qui fait partie de l'Église et quel mal est acceptable dans l'Église. Et je pensais assez intéressant de penser à ma paroisse, l'Église palpable, mais aussi à votre réflexion qui prend corps aussi dans ce que nous vivons localement.
Bon. On entend une autre question. Réaction.
Bonsoir, merci beaucoup. J'ai une question, je ne sais pas si ça a été abordé au tout début parce que je suis arrivée un peu en retard et je m'en excuse. Autour de l'Église institution, je mets les pieds dans le plat. Faut-il qu'il y ait des hommes et des femmes qui gouvernent cette Église si on la veut sainte? Voilà.
On prend encore une troisième question et puis vous pourrez réagir.
Merci beaucoup. Moi, j'ai une question naïve. Au moins, la première et la troisième intervention ont parlé de l'Église épouse du Christ pour parler de la sainteté de l'Église aujourd'hui. Et en tout cas, dans la génération autour de moi, la notion d'épouse et de mariage, etc., ne permet plus forcément de justifier la sainteté. Donc, est-ce qu'on peut encore utiliser ces références scripturaires et cette image pour parler de la sainteté de l'Église?
Merci. Alors, je ne sais pas. Bon, la première intervention était plus une réaction. Je ne sais pas si vous souhaitez dire un mot par rapport à...
Je vais peut-être rebondir sur la dernière question, la dernière remarque. Je suis très sensible, en fait, aux questions de langage et de traduction de ce que nous sommes et de ce que nous vivons dans la société. En fait, je me demande si on ne s'est pas trompé pendant des siècles sur la manière de définir le mariage aussi. Moi, je n'oserais jamais dire à des personnes qui s'aiment et vivent ensemble qu'elles sont mariées ou qu'elles ne sont pas mariées, si elles sont passées ou pas par la mairie ou par l'Église. Je crois que les mots ont acquis une sorte de caractère sacré dans une définition séculaire qui trahit la véritable théologie chrétienne du mariage. On a tardé plusieurs siècles avant d'avoir des mariages dans les églises. Les premiers chrétiens étaient mariés, mais ils n'étaient pas mariés à l'église. Donc aujourd'hui, quand on accompagne des jeunes qui se préparent ou bien qui sont déjà dans une vie commune, on accompagne des gens qui, en fait, virtuellement sont déjà mariés. Virtuellement, je retire cette parole parce qu'elle veut dire plein de choses aujourd'hui. Voilà, je pense que oui, les termes de la Bible doivent toujours être contextualisés quand on en parle. Ils ont 2000 ans pour les plus récents d'entre eux. Et il y en a qui sont encore plus anciens. Et ceux qui sont écrits en grec sont encore assez compréhensibles parce que le grec c'est quasiment du français. Mais ce qui est écrit en hébreu c'est encore plus compliqué. Mais oui, bien entendu, on doit toujours traduire dans le langage d'aujourd'hui les choses qu'on dit. Mais on ne peut pas se priver pour autant de ce mystère d'amour qui est défini dans toute une série d'aspects de l'Écriture, et pas seulement dans le cinquième chapitre des Éphésiens, au sujet de l'amour conjugal. Je crois qu'il dit encore quelque chose de pertinent. C'est nous qui avons une vision beaucoup trop étriquée du mariage dans nos représentations chrétiennes du XXIe siècle. C'est un petit avis, mais je peux parler plus longtemps sur ce sujet parce que je trouve que vraiment, 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 les chrétiens pêchent par manque de clarté dans leur théologie du mariage, qui est pourtant tellement centrale dans la vie des êtres humains.
Est-ce que Elisabeth ou Joseph
Peut-être j'enchaîne sur ce point de la... de Éphésiens, l'Église épouse du Christ, avec la comparaison d'Éphésiens, dans une direction un tout petit peu différente par rapport au langage. Parce que évidemment, l'analogie que fait l'apôtre, enfin en tout cas le rédacteur d'Éphésiens, ou l'école de l'apôtre Paul, dans Éphésiens, suppose encore une époque où l'épouse appartient, voilà, à son mari et elle est le prolongement du mari. Enfin bon, donc il est évident que cette analogie dans le langage, dans les catégories d'aujourd'hui, ne fonctionne plus, elle est bancale. Est-ce que pour autant, ce que le texte veut dire et ce que le rédacteur a voulu dire n'a plus de pertinence? Moi, je dirais, c'est là qu'il faut distinguer, évidemment. Le choix de l'analogie, il faut replacer l'analogie dans son contexte de l'époque, avec les catégories de l'époque. Mais je dirais que pour moi, ça reste pertinent dans trois choses qui sont dites par là, par cette image de l'Église comme corps du Christ. C'est ce qu'on a dit d'ailleurs, c'est que c'est la relation à Dieu et ici au Christ qui est qui est en quelque sorte ce qui oriente dans la sainteté, ou le fait que l'Église soit appelée sainte, c'est cette relation. Deuxièmement, c'est pas une relation biologique, c'est une relation d'adoption. Et en cela, moi, je tiens énormément à cette affirmation que la foi ne peut être qu'une adoption. On n'est pas enfant de Dieu par filiation, parce que c'est naturel, parce que c'est évident, parce qu'on est des créatures, mais on a une vraie liberté de ne pas l'être, et en cela il y a une adoption. Et si elle est épouse, l'image en tout cas, même dans le temps d'aujourd'hui, implique une liberté. Et la troisième chose, c'est précisément cette notion d'amour, puisque le mari doit aimer sa femme, ce qui est révolutionnaire pour l'époque, comme le Christ aime l'Église. Donc il y a ici quelque chose d'assez inconditionnel que je trouve extraordinaire au fond. Que le Christ aime l'Église, c'est assez incroyable. Donc voilà, je dirais ça, ce sont quand même trois choses qui me semblent importantes, même si l'analogie ne peut pas vraiment fonctionner comme à l'époque. Et puis je voulais juste dire un tout petit mot par rapport à ce que Jane disait du status confessionnis, parce que peut-être que pour tout le monde ça n'est pas évident ce qu'elle entendait par là, puisqu'elle n'a dit qu'une phrase. Ce que nous appelons dans notre langage protestant le status confessionnis, c'est que quand il y a une réalité dans la vie de l'Église qui met en danger qui contredit ce qu'elle affirme dans sa foi, c'est que l'état même de la confession de foi est blessé. C'est-à-dire, au fond, quand est-ce qu'on l'a fait dans l'histoire? C'est quand il y a eu l'Église, quand l'Église a adhéré au national-socialisme du temps des chrétiens allemands, et qu'ils ne se sont pas opposés au national-socialisme. Bonhoeffer et surtout l'Église confessante, avec bien d'autres personnes aussi, Karl Barth, la déclaration de Barmen, a marqué un status confessionnel. Non, mais là, nous ne pouvons pas accepter. C'est une situation que nous ne pouvons pas accepter. Mais ils n'ont pas fait un manifeste politique, ils ont fait un manifeste théologique. Donc, la question de Jane était, est-ce qu'on peut tout accepter dans l'Église et tout le monde et toutes les opinions? Et là, en effet, ce qui met en cause notre témoignage, notre crédibilité, notre fiabilité, en tant qu'Église, il faut qu'on y réfléchisse de manière critique. Je pense que c'est un petit peu ce qu'on a dit aussi tous les trois.
Joseph ?
Simplement une phrase pour aller à propos d'Éphésiens 5, pour aller dans le sens de mes deux collègues. Donc, dans l'interprétation évidemment d'un texte scripturaire, il faut à la fois tenir compte du contexte de rédaction du texte, mais aussi du contexte du lecteur. Et donc c'est une herméneutique dialectique, en quelque sorte, entre le contexte du temps et le contexte actuel de lecture. Et donc cela peut amener, effectivement, en tout cas dans l'interprétation, dans l'explication, à trouver peut-être d'autres images qui rejoignent la visée de l'Écriture sainte, mais tandis que les images de l'Écriture sainte ne peuvent pas être reproduites telles quelles, au risque d'être contre-productives. Simplement, je voulais simplement abonder dans le sens.
Oui.
Merci pour ces trois brillantes présentation, communication. J'avais juste, en écoutant la partie protestante, que l'on retrouve d'ailleurs chez Christian Ducoq quand il parle d'église provisoire, cette acceptation de la précarité de l'église et donc de sa peccabilité possible, j'ai repensé à l'expression de Calvin que l'on retrouve chez Fadielowski. Quand Lovski parle de, enfin, le titre de son livre, c'est Pauvrette Église. Mais souligner aussi combien c'est pas de la fausse modestie, mais Pauvrette Église, finalement, c'est montrer la force de l'Église, qui, pour elle, enfin, selon Lovski, réside dans la permanence du vis-à-vis avec Israël. Est-ce que vous pouvez varier un petit peu sur, sur cette, cette conception chez Calvin et Lovski. Merci.
Parce que tu es plus compétente.
Oui, non, mais je ne vois pas... Je vois Lovski, mais pas Calvin. Donc peut-être quelqu'un ici connaît l'arrière-fond chez Calvin, parce que c'était une expression de Calvin.
Pauvrette Église. On entend peut-être...
Pauvrette Église, oui.
Une autre question au fond, donc... Richard. Et puis, pardon, et aussi au premier rang. Donc, deux autres questions. Pardon.
C'est pas l'expression pauvrette Église. Oui, c'est une question qui s'adresse à vous trois. Est-ce qu'on peut faire un lien, selon vous, entre l'unicité de l'Église et sa sainteté? Dans la mesure où vous représentez trois Églises, chacun à votre manière, et que d'une certaine manière, vous avez quitté l'Église universelle, peut-être pour que votre Église reste sainte. Voilà, donc, voilà. Y a-t-il un lien?
Et puis, donc, une autre question, ici au premier rang.
Oui, merci. On a parlé d'église épouse, mais on a très peu parlé d'église corps du Christ. Et avec ce mot église, avec lequel on a beaucoup de mal parce qu'on a un seul mot, si on pense au corps et qu'on pense au grec, on a sarx et soma. Et ça doit résonner certainement d'une façon différenciée dans l'église, quand elle est sarx, quand elle est soma. Quand elle est corruptible, incorruptible, etc., avec des catégories que la patristique nous a enseignées. Et puis juste une remarque, vos deux collègues, madame, ont parlé des églises, d'églises locales, et vous-même, lorsque vous avez parlé de l'église, ne parlant jamais de l'église locale ou des églises. Quelle est la raison de ce choix, enfin, est-ce que c'est protestant ou est-ce que...
Voilà, je ne sais pas dans quel ordre vous souhaitez réagir. Oui.
L'Église est toujours soma. Dans le Nouveau Testament, effectivement, le mot sarx n'est pas très très en faveur chez Paul. L'Église est soma pneumaticon, d'ailleurs, un corps spirituel. Je ne sais pas vraiment si on peut faire le... Enfin, étant donné que jamais, je crois, l'apôtre n'applique le terme de sarx à l'Église, il applique le terme de sarx à nos éventuelles manières d'aborder la vie en Dieu. Et il nous invite à devenir nous-mêmes spirituels et non pas charnels. Le charnel pouvant résider dans ce qu'il y a de plus subtil en nous parfois, et le spirituel pouvant se réaliser jusque dans ce qu'il y a de plus corporel en nous. Hein, donc nous sommes appelés à avoir un corps spirituel et avoir un esprit qu'il ne soit pas charnel, chez Paul. Et je pense que l'Église, bien entendu, doit vivre de cette logique-là, et si l'on devait faire le parallèle avec la logique nuptiale, je dirais que l'Église est invitée à devenir toujours davantage l'épouse sainte et immaculée, comme le dit Éphésiens 5, du Christ, et à ne jamais être une épouse déshonorante pour son époux. Mais je voudrais peut-être revenir, en profiter au sujet de cette question de est-ce que l'Église est toujours digne comme épouse, etc., pour dire peut-être ma difficulté à m'inscrire dans la question sur le caractère sur la peccabilité de l'Église ou dans l'Église. En fait, je ne me reconnais pas énormément dans cette question. Pourtant, je vois très très bien quel est le problème des scandales du caractère imparfait de l'Église. Mais lui appliquer la terminologie du péché ne me semble pas si pertinent que ça. En fait, et du coup, j'ai du mal à entrer dans la question et à comprendre la question parce que la question ne me paraît pas si opérante. En fait, on parle de l'Église et on croit en l'Église, on la désigne dans tous les credos depuis cet ancien credo que le père Joseph Fabré a rappelé, jusque dans les credos évidemment les plus connus, le credo de Nicée-Constantinople. On croit dans Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et on croit aussi dans l'Église. Mais il n'empêche que, alors je vais invoquer une terminologie qui n'est pas nécessairement non plus si courante de nos jours, mais l'Église n'est pas une hypostase. Et donc, elle n'est pas, on n'a pas à la juger pécheresse ou pas pécheresse. Elle est forcément, elle a des fonctionnements imparfaits, des fonctionnements dysfonctionnels. Et nous en faisons tous partie, et nous pouvons être pécheurs ou pas. Et on est toujours pécheurs, bien entendu. Mais je, en fait, faut-il vraiment trancher la question de la pécabilité de l'Église ? Pour moi, c'est une question. Voilà.
Elisabeth ou Joseph ?
Oui, tu veux. Moi, je peux dire après
ça. Oui. En même temps, c'est sur le plan historique, en tout cas dans la réflexion de Ducoq, hein, c'est. Le don de Dieu, évidemment, est premier et radical et total, hein, mais en même temps, la réalisation de l'Église dans l'histoire est marquée par la pécabilité, est marquée par la faillibilité, les erreurs, etc., quoi. Donc, c'est en tant qu'Église historique, concrète, réalisée dans l'histoire, et ça vaut pour toutes les Églises.
C'est juste la question de la terminologie que je posais. Parce qu'en fait, de la même manière qu'Elisabeth, à la fin de son intervention, disait que ne pas vouloir confondre sainteté, vérité, sainteté, autorité, sainteté, pureté, sainteté et perfection, effectivement, ce ne sont pas des synonymes. Et de la même manière que ce ne sont pas des synonymes et qu'on ne doit pas nécessairement s'inscrire dans des questions oui ou non pour chacune de ces catégories, je n'arrive pas à entrer dans la question Église pécheresse ou pas pécheresse. Mais bien sûr, pécheresse. Enfin, mais on va pas la désigner comme telle dans les textes les plus anciens, mm-hmm. comme vous l'avez rappelé, parce qu'en fait, on n'applique pas à une entité non hypostatique, mais constituée d'une multitude d'hypostases, une catégorie qui ne s'applique qu'à une hypostase.
Mm-hmm. Je trouve. Il reste juste 3-4 minutes avant la conclusion. Donc, si vous voulez dire un petit mot aussi, Elisabeth,
Joseph. Oui, je dirais directement un petit mot aussi pour finir. Puis, comme ça, je vous redonne la parole. Juste pour la question. C'est vrai, j'aurais toujours dû parler des églises. Au fond, le langage protestant aurait toujours dû être les églises. Mais je pense que c'est par souci, enfin, je ne sais pas, je ne l'ai pas fait volontairement, mais je pense que c'est parce que, précisément, la différence avec d'autres conceptions ecclésiales, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les églises locales et puis l'église dans ses institutions, ses autorités. C'est la même réalité. Et que généralement, chaque église est considérée comme une créature, comme les humains, comme chaque être humain traversé de ses ambitions. C'est peut-être un abus de langage, en fait. Mais bien sûr, il faut en parler au pluriel. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais l'enjeu derrière, c'est effectivement, je crois, la question de l'autorité. De quel droit est-ce que l'Église dit aux autres ce qu'ils doivent faire, l'Église en tant qu'entité qui fait autorité. C'est en ce sens-là que j'ai utilisé plutôt le singulier. Moi, je veux juste dire pour finir ce qui me paraît intéressant dans des églises qui sont... Voilà, nos églises, ce qu'elles peuvent faire, c'est que finalement, comme elles sont traversées elles-mêmes des mêmes inquiétudes, des mêmes peurs, des mêmes ambiguïtés que chaque être humain, en cela, je crois que c'est un petit peu ce que tu as souligné toi, Joseph, elles sont aussi des lieux d'expérimentation de la vie humaine dans ses ambiguïtés et des lieux d'interrogation aussi. Et du coup aussi des lieux de conversion. C'est un enseignement, ce sont des laboratoires aussi pour les fidèles. Et précisément en cela, le fait de voir les ambiguïtés nous aide, parce que nous sommes précisément, en quelque sorte, appelés nous-mêmes à traverser ces ambiguïtés sans vouloir être parfaits, puisque nous apprenons les uns des autres à les traverser ensemble. Donc ça me paraît intéressant.
Mais moi, je voudrais peut-être revenir un tout petit peu à la question sur le lien entre unité et sainteté. Mais je risque une première approche, c'est que en quoi l'Église est-elle sainte? aussi parce qu'elle est une communion réconciliée, hein, une communion réconciliée. Et donc, la négation de l'unité, la division entre, est une contradiction de la sainteté de l'Église également. Donc, il y a un lien, me semble-t-il, intrinsèque entre sainteté en tant que communion réconciliée et unité de l'Église, en ce sens. On peut trouver d'autres approches, bien sûr. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, avant de laisser un dernier mot à Anne-Cathy, je voudrais conclure, donner une première conclusion, en tout cas, de cette soirée. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé en vous écoutant, c'est que, au fond, nous avons entendu, dans chaque cas, un certain regard sur l'Église. Nous avons bien senti que ce n'était pas toujours exactement les mêmes approches. Et en même temps, dans chacune de vos interventions, nous avons senti, au fond, une sorte d'autocritique, ou en tout cas une capacité à interroger les traditions, nos traditions respectives. Et ça me semble extrêmement heureux. Et je me disais évidemment, aux écoutants, que pouvoir formuler des points sur lesquels chacune de nos églises, nos traditions peut s'interroger sur elle-même, eh bien, c'est un fruit déjà du dialogue œcuménique, et en tout cas, c'est un moteur du dialogue à venir. C'est quelque chose qui peut aussi aider peut-être à aller de l'avant vers des rapprochements encore plus importants dans les regards que nous portons respectivement sur l'Église. Donc, de cela, vraiment, on peut grandement vous remercier ce soir.
On ne peut donc que vous remercier, évidemment, pour vos interventions et les échanges qui ont pu suivre ce soir. Merci beaucoup. Et nous vous invitons les uns les autres à poursuivre la discussion entre nous, ou bien simplement faire connaissance pour ceux qui le souhaitent. Il y a donc un verre de l'amitié qui est proposé. En sortant, ce sera tout de suite à gauche. Donc voilà, nous avons une demi-heure pour ceux qui le souhaitent, ou moins, évidemment, si vous voulez. Et puis, pour ceux qui souhaiteraient, celles et ceux qui souhaiteraient poursuivre, un peu dans cet esprit, justement, que vient de décrire Michel Fédoux, de connaître la tradition des uns et des autres, d'interroger aussi sa propre tradition ou les traditions des autres, entrer aussi dans le dialogue œcuménique, vous pouvez trouver à la sortie, ou bien quelqu'un va vous le distribuer, donc le programme de la chaire de théologie œcuménique. Et puis, je voudrais attirer votre attention sur une soirée le 11 janvier qui aura lieu en partenariat avec l'Institut supérieur d'études œcuméniques de l'Institut catholique de Paris. Donc le 11 janvier, ici même à 19h30. Et ce sera l'occasion d'entendre comment des membres, des théologiens qui ne sont pas membres du groupe des Dombes reçoivent le document du groupe des Dombes dont il a été question par Joseph et dont le lancement aura lieu plus tôt en novembre, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais donc en janvier, en tout cas le 11 janvier, vous pourrez, si vous voulez, venir ici à 19h30. Donc 19h30, 21h30. Et nous remercions particulièrement l'ICEO d'avoir accepté cette collaboration. Je remercie aussi, bien sûr, ceux qui étaient en ligne. Et nous leur souhaitons aussi une bonne soirée. Malheureusement, on ne peut pas continuer avec eux. Voilà. Et puis, je me permets aussi de terminer en disant que vous avez vu que cette soirée est tout à fait libre. Donc, c'est une participation libre aussi à la sortie. Voilà, je me permets de vous le dire. Donc, vous trouverez ça juste en franchissant la porte, là. En tout cas, merci beaucoup. Merci aux uns aux autres. Merci aux étudiants aussi de cette maison qui ont été présents là ce soir. Et bonne suite à chacun, à chacune.